France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire.
Tout les séparait. Elle adorait bavarder, chanter sous le soleil des tropiques. Elle avait un prénom biblique et, contre toute attente, un prénom parfaitement masculin. Elle s'appelait Jacob et elle avait du vocabulaire. Lui s'appelait Alexander, beau gosse, aristocrate, tête bien faite, un homme comme il n'y en a jamais eu d'autre depuis. L'homme le plus célèbre de son époque après Napoléon. Il est enterré au château de Tegel à Berlin. Une belle histoire, comme seul le XVIIIe siècle en plein âge romantique savait en produire. Jacob est morte à 30 ans et en revanche, elle n'est pas enterrée mais plutôt empaillée, bec et plumes, car c'est un perroquet, un Vassa coracopsis. Un volatile d'une espèce venue de Madagascar jusqu'en Amazonie, où les deux tourtereaux, si je puis ainsi les qualifier, se sont rencontrés et ensemble ont vécu l'une des plus belles aventures scientifiques interespèces de l'histoire. Car Jacob a fait l'impossible pour Alexander. Il a ressuscité les morts. Je vais vous raconter l'histoire d'Alexander von Humboldt et de son perroquet, et accessoirement l'histoire d'un moment fondateur de l'écologie, de la mémoire des peuples indigènes et de la linguistique moderne. Difficile de définir Alexander von Humboldt. Aristocrate né en 1769 et mort en 1859, autrement que comme l'un des plus grands génies explorateurs de l'histoire humaine. Géographe, anthropologue, naturaliste, philosophe, économiste et linguiste. Humboldt fut précurseur dans la compréhension de l'unité de la nature. Il a défendu la terre, mais aussi la justice sociale en grand admirateur de Rousseau et de la Révolution française. Humboldt était le premier environnementaliste, le premier à alerter sur le changement climatique avant même que les termes environnement et écologie ne soient inventés, respectivement en 1827 et 1875. On lui doit l'idée selon laquelle les deux rives de l'océan Atlantique avaient été jointes dans le passé en faisant le découvreur de l'idée de plaque tectonique. Sa conception serait aujourd'hui qualifiée de holistique, avec une approche de la diversité botanique et animale inspiratrice de ce qu'on appelle écologie. Il était également fasciné par la Révolution française et apprenait toutes sortes de langues. Oui, à cette époque, les écologistes allaient encore à l'école. C'était aussi une sorte de Noé sans son arche, puisqu'on lui attribue la préservation de dizaines de milliers d'espèces botaniques et animales lors d'une exploration dont la lettre est l'une des plus grandes sources de rêverie de mon existence. La rencontre de Jacob le perroquet s'est faite là, lors de ce voyage dans les régions équinoxiales du nouveau continent, dans l'actuel Venezuela, à la recherche d'une connexion entre les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. Ce voyage extrêmement dangereux, entrepris avec le français Aimé Bonpland, son meilleur ami, débute le 5 juin 1799 et se termine le 3 août 1804. Humboldt allait mettre 30 ans à en publier les 30 volumes. 15 000 pages en français et en latin, et c'est dans le volume 6 ou 7 selon les éditions qu'il est fait mention de ce perroquet, Jacob. Ce que recherche Humboldt des Andes à l'Amazonie et jusqu'à l'isthme de Panama, c'est bien sûr la connaissance, mais c'est aussi avant tout la diversité, la surprise d'explorer des airs non encore cartographiés, l'inconnu absolu, le bonheur.
Nous sommes ici, enfin, dans le pays le plus divin et le plus merveilleux. Des plantes extraordinaires, des anguilles électriques, des tigres, des tatous, des singes, des perroquets et de nombreux, très nombreux indiens purs, à demi-sauvages. Une race d'hommes très belle et très intéressante. Depuis notre arrivée, nous courons partout comme des fous. Je sens que je serai heureux ici.
À cette époque-là, le mode de vie tribal est une découverte pour un fils de bonne famille prussienne. Et c'est en remuant l'humanité de ceux qui habitent ces jungles amazoniennes qu'il découvre les confins vertigineux de la cruauté. Ou plus simplement dit, de l'instinct animal de l'Homo sapiens.
Deux enfants nés en même temps ne peuvent pas appartenir au même père. Si un nouveau-né présente une malformation physique, le père le tue immédiatement. Ils ne veulent que des enfants bien formés et robustes, car les malformations sont le signe d'un mauvais sort. Chez les Indiens de l'Orénoque, le père ne rentre chez lui que pour manger ou dormir dans son hamac. Il ne manifeste aucune affection à ses enfants, ni à sa femme, qui ne sont là que pour le servir.
Parmi ces Indiens de l'Orénoque, la tribu des Caribés semble à première vue inoffensive. Humboldt acquiert d'eux un perroquet, et ce perroquet parle. Parler est alors pour Humboldt et Bonpland un privilège, puisqu'il est raconté que la densité d'insectes est telle qu'il leur est impossible d'ouvrir la bouche sans en avaler. Très vite, Humboldt comprend que le vocabulaire de Jacob diffère de celui des Indiens Caribés. Il parle une autre langue. Il a appartenu au peuple Maïpouré, ennemi héréditaire des Caribés. 40 ans plus tôt, une guerre atroce avait abouti à leur isolation, puis à leur extermination totale. Le perroquet, doté de la mémoire d'une langue totalement différente, était donc le seul moyen de retracer l'existence d'une tribu entière, le seul lien à cette civilisation anéantie. Humboldt réalise vite des transcriptions phonétiques de la quarantaine de mots du lexique du perroquet et reconstitue un squelette d'idiome dont il déduit certains éléments du mode de vie des Maïpouré. Ils sont comme le mausolée de ce peuple entièrement disparu. Alexander avait le gène linguiste. Son frère, Wilhelm von Humboldt, est célèbre pour avoir rédigé 30 grammaires de langues aussi diverses et complexes que le basque ou l'égyptien ancien. Nous sommes au siècle des Lumières. La communauté humaine se soude par la découverte tous azimuts de la diversité des Weltansicht, des visions du monde. Je passe sur les autres exploits de l'expédition, dont l'escalade du volcan Chimborazo, 5880 mètres, considéré alors comme le plus haut sommet du monde. tombé dans un relatif oubli, considéré même par certains comme un mythe, l'histoire de Jacob et Alexander rebondit contre toute attente en 1997 dans une galerie d'art contemporain à New York, puis en 2001 lors de la Biennale d'Istanbul. Pour son installation « Mai Poré », l'artiste Rachel Berwick a décidé d'apprendre les 40 mots de l'idiome disparu à deux perroquets d'Amazonie. L'exposition connaît un grand succès et tourne dans le monde entier, avant que des enregistrements de ces deux linguistes à plumes ne servent à inspirer d'autres de leurs congénères, éduqués via Internet par leurs maîtres. Il existe aujourd'hui, dans le monde, 8 perroquets qui parlent Mai Poré. S'il y en a un jour encore plus, alors on pourra parler d'une tribu ayant reçu, via un explorateur et son perroquet, le don d'une langue et donc d'une vision du monde, d'une civilisation. Un perroquet peut faire résonner sa voix et moduler des sons par imitation en se servant d'un organe situé sous la trachée, appelé syrinx, mais il ne comprend rien aux mots qu'il prononce. Un peuple exterminé vit à travers une langue parlée par des oiseaux, et Alexander von Humboldt, du ciel, peut encore écouter dialoguer les disciples de Jacob, qui resta son compagnon jusqu'à sa mort. Écoutons-les, salut au Mai Poré, et laissons l'alochifrine nous bercer de sa samba du perroquet. Les podcasts de ces émissions sont écoutables à vie sur le site de France Culture. Merci à la talentueuse Fanny Constant, à la technique l'experte Marie-Claire Oumabadi, assistante de production Aurélie Marsay, et bravo à Théo Wiesmann. Allez-y, faites de votre semaine une histoire truculente.